chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, nous débutons cette deuxième saison du balado Savoir et Stéthoscope. Je suis Sophie Martin, conseillère en soins.
Et moi, Stacy Corriveau, conseillère cadre clinicienne en soins infirmiers à la direction des soins infirmiers.
Nouveautés, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Une nouvelle formation sur la sédation palliative continue a été développée par la DSI en collaboration avec la Maison des soins palliatifs au Diapason, en se basant sur les fiches cliniques développées par l'OIQ et le Collège des médecins du Québec. La formation d'une durée d'1h30 inclut les indications, conditions et processus décisionnels de la sédation palliative continue, les principes de prescription et d'administration, les principes de surveillance et d'accompagnement et finalement la documentation qui s'y rattache seront abordés. La formation est disponible sur l'environnement numérique d'apprentissage ENA.
Afin de débuter cette deuxième saison du balado Savoir et Stéthoscope, nous voulions profiter de la semaine des soins palliatifs ayant lieu du 4 au 10 mai 2025. Pour parler du sujet qui s'y rattache, soit l'approche palliative intégrée. La DSI est porteur du dossier des soins palliatifs et de fin de vie au CIUS de l'Estrichu depuis 2023. Le déploiement de l'approche palliative intégrée est l'une des trois orientations prioritaires pour notre établissement. Ce déploiement vise l'ensemble des trajectoires pouvant accueillir un usager recevant ou ayant un diagnostic à pronostic réservé.
Pour en parler, nous accueillons Maude Charron, qui est conseillère cadre clinicienne pour la trajectoire des soins palliatifs et de fin de vie à la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu et qui a également un mandat comme chargée de projet pour le plan ministériel sur les soins palliatifs et fin de vie pour le territoire du RUIS de l'Université de Sherbrooke. Ainsi que Maude Théberge, qui est conseillère en soins infirmiers dans la trajectoire soins palliatifs et de fin de vie également au CIUS de l'Estrichu. Bonjour les filles.
Bonjour.
Allô! On est vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler, comme Sophie disait, de l'approche palliative intégrée. Il s'agit de l'une de nos grandes orientations au CIUS de l'Estrichu et nous travaillons, Maud et moi, depuis plusieurs mois à développer des outils pour faciliter son appropriation par l'ensemble des intervenants et des professionnels travaillant de près ou de loin avec des usagers ayant une maladie à pronostic réservé. Ce que ça veut dire, une maladie à pronostic réservé, c'est que le pronostic est peu favorable, relié à l'évolution d'une maladie ou à la gravité des lésions, selon lesquelles les chances de survie du patient à plus ou moins long terme sont compromises. Au-delà du concept théorique, l'approche palliative intégrée prend tout son sens puisqu'il s'agit d'une approche probante, scientifique, à s'inscrire dans une vision humaniste et scientifique du soin. C'est vraiment une approche qui est dédiée à préserver, à honorer l'unicité de la personne inscrite dans une trajectoire de maladie à pronostic réservé. Ça prend une grande considération de l'expérience de l'usager, de ses proches. En bref, là, c'est vraiment un changement de culture pour les intervenants du réseau de la santé en général.
Maude, tu parles d'approche palliative intégrée. C'est quelque chose que je ne connais pas, là. On parle souvent de soins palliatifs, oui, mais je n'avais jamais entendu parler d'approche palliative intégrée. C'est quoi la différence entre les deux, s'il y en a une?
En fait, c'est que c'est vraiment pas la même chose. Auparavant, on utilisait le terme soins palliatifs pour décrire les soins offerts aux personnes avec une maladie grave pour laquelle il n'y avait plus de traitement potentiellement curatif qui était envisagé. On disait à ce moment-là que l'usager passait en soins palliatifs, mais on aurait dû dire qu'il se retrouvait davantage en soins de fin de vie. C'était très linéaire. On traitait l'usager, on traitait la maladie, puis à un moment donné, il n'y avait plus rien à faire, donc il passait en soins palliatifs, soins de fin de vie. Dans la population générale, même chez plusieurs professionnels de la santé, on utilise encore le terme « soins palliatifs » souvent davantage que le terme « soins de fin de vie » lorsque le pronostic vital est sombre et qu'il reste que quelques semaines ou quelques mois de vie à l'usager. Puis ce qui est important de faire la différence entre les termes « soins palliatifs » et « soins de fin de vie », c'est que c'est vraiment pas la même chose. On parle de soins palliatifs quand l'usager est atteint d'une maladie à pronostic réservé incurable, comme je le disais tantôt. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie neurodégénérative comme la SLA, ça peut être une insuffisance cardiaque, hépatique. Il y en a plein là, de maladies à pronostic réservé. Fait que l'objectif, c'est vraiment de soulager les souffrances de l'usager en considérant l'ensemble des composantes physiques, psychologiques, sociales, spirituelles, ainsi que les symptômes que la personne va avoir. Ça peut être des nausées, de l'anxiété, de l'insomnie, de la douleur, pour améliorer sa qualité de vie malgré la maladie. On l'entend des fois la phrase « on ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie au jour ». Bien, c'est vraiment une phrase typique des soins palliatifs parce que on ne peut pas prolonger la vie quand la personne est malade, mais on peut ajouter de la qualité de vie. Fait que c'est vraiment tout le reflet des soins palliatifs. Les soins de fin de vie, eux, bien, ils font vraiment partie des soins palliatifs. Mais comme le nom l'indique, ça va être mis en place dans les derniers moments de la vie. À ce moment-là, on parle de soins palliatifs de fin de vie qui peuvent inclure l'AMM et la sédation palliative continue si l'usager le veut et s'il répond aux critères qui sont définis par la loi.
Par AMM, tu veux dire aide médicale à mourir, c'est bien ça?
Tout à fait. Si on revient sur l'approche palliative intégrée, bien, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est une approche. Fait que c'est un concept qui est non tangible si on compare avec les soins palliatifs puis les soins de fin de vie. Fait que ça propose vraiment un début précoce, soit dès l'annonce du diagnostic à pronostic réservé. Ça s'adresse à un grand nombre d'usagers ayant des maladies chroniques et leurs proches. Ça prévoit un ajustement progressif des traitements à visée curative et palliative tout au long du continuum de soins de l'usager, puis ça se poursuit même avec un accompagnement des proches après le décès. Donc, l'usager, selon l'approche palliative intégrée, peut recevoir des traitements curatifs, comme la dialyse, la radiothérapie, ou même en même temps que de recevoir des soins palliatifs pour mieux gérer les symptômes que l'usager va présenter, peu importe le type de symptômes, comme je le disais tantôt. Donc, avec l'approche palliative intégrée, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la mort fait partie de la vie. Tout le monde va mourir, on n'y échappera pas. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler justement de la mort. Ça ne nous fera pas mourir plus vite, mais ça va permettre que nos proches, que les professionnels en soins qui prennent soin de nous sachent c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les objectifs de vie qu'on veut mettre en place, puis c'est à quoi qu'on aspire si jamais on aurait un diagnostic justement d'une maladie à pronostic réservé. Donc, mettre en place l'approche palliative intégrée dans notre quotidien, ça n'augmente pas notre charge de travail comme professionnel en soins infirmiers, mais ça va être un changement de notre approche, de notre culture comme soignant.
Je trouve ça tellement inspirant t'entendre, Maude, là, c'est magnifique tout ce que tu nous as dit, là, les rajouter.
Des belles phrases,
oui,
hein?
Vraiment.
Oui, c'est très parlant, comment tu l'abordes.
Oui, vraiment, on dirait que ça me donne le goût d'aller travailler en soins palliatifs et fin de vie.
Ah, mais comme elle dit, on peut l'intégrer partout, peu importe le milieu où on travaille.
C'est vrai, merci Sophie. En fait, ce que j'aimerais savoir, mesdames, c'est comment on fait pour justement adopter l'approche palliative intégrée concrètement si c'est une approche non tangible. Comment on fait pour changer la culture?
Bien, Stacy, c'est vraiment intéressant comme question parce que c'est vraiment là que le défi est. Comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre puis se l'approprier en tant qu'intervenant? Bien, ce qui est essentiel de vraiment comprendre, c'est que l'approche palliative intégrée, elle repose sur 6 grands principes. Il est donc important pour chaque intervenant qui va souhaiter l'appliquer dans sa pratique au quotidien, qu'il s'approprie les principes. Mais tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que le concept de base, c'est, comme on l'a dit, la mort a fait partie intégrante de la vie. L'approche palliative intégrée met de l'avant l'importance de favoriser l'autonomie de l'usager et ses proches et également de respecter leur volonté. Cela permet aussi d'offrir des soins centrés sur la personne soignée et ses proches. Ces soins doivent être basés sur une approche dite holistique qui nous permet de couvrir l'ensemble des dimensions de la personne, soit le biologique, le psychologique, le social ainsi que le spirituel. Ce qui est important dans les 4 premiers principes que je viens de vous expliquer rapidement, c'est que si on arrive à les appliquer, bien on va avoir une répercussion positive sur les 2 derniers principes qui sont contribuer à l'accès équitable des soins et services en santé et également assurer une gestion efficace et efficiente des ressources en santé. Mais encore là, je pense que ça peut rester assez flou comment arriver à appliquer l'approche palliative intégrée. Donc, pour y arriver à appliquer, bien, j'aimerais que les auditeurs retiennent quelque chose, c'est que la clé de l'approche palliative se retrouve parfois dans les petits gestes pour nous, pour les personnes soignées, leurs familles, mais également l'ensemble de la population. Par exemple, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas immortels. C'est de réfléchir à ce que nous souhaitons avoir si on devenait malade. Puis pour y arriver, ben c'est de commencer à réfléchir à c'est quoi nos valeurs, mais surtout d'en discuter avec nos proches significatifs. Puis ces réflexions-là vont nous permettre sans doute de faciliter notre prise de décision lorsqu'on un médecin ou même une infirmière praticienne spécialisée ben, va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Puis comme professionnel, ben c'est d'accompagner la personne et ses proches. C'est lui présenter les différentes options de traitement possibles puis de respecter ses choix. C'est aussi de questionner la personne et ses proches sur ses besoins spirituels, sociaux, psychologiques, afin de lui offrir les ressources du système de santé qui vont répondre à ses besoins, mais sans oublier nos partenaires comme les organismes communautaires et les maisons de soins palliatifs. Finalement, on pense que si on répond rapidement aux besoins de la personne et ses proches dans sa trajectoire de soins-services, ben il est juste de prévoir qu'on va avoir un effet positif sur l'accès aux soins-services tout en assurant une gestion plus efficace de nos ressources.
Donc, l'approche palliative intégrée, c'est penser tôt à l'avenir pour profiter du moment présent.
C'est exactement ça, Sophie. Puis un autre élément qui est important de l'approche palliative intégrée, bien, c'est que c'est la base de notre pyramide d'offres de soins et services en soins palliatifs et en fin de vie. En effet, si on s'imagine que l'offre de soins et services, c'est une grande pyramide, on doit s'imaginer que l'approche palliative intégrée, bien, c'est la base. Puis les soins spécialisés, bien, c'est la toute pointe de la pyramide. Donc, les professionnels spécialisés en soins palliatifs et de fin de vie assurent davantage l'offre de soins et services spécialisés à un petit groupe d'usagers. Et les professionnels de l'ensemble des secteurs offrant des services aux usagers atteints d'une maladie à pronostic réservé, bien, ils doivent s'occuper là, de l'approche palliative intégrée et se l'approprier dans leur pratique. Puis finalement, bien, l'approche palliative intégrée, c'est vraiment une des priorités qui est prévue dans le plan d'action ministériel 2020-2025. Ça devait finir cette année, mais c'est prolongé d'une autre année, puis ça porte vraiment bien le nom, qui était d'assurer une équité dans l'accès aux soins et services en soins palliatifs.
Donc, si je comprends bien, n'importe quel professionnel provenant de n'importe quel secteur, mais eux, ils pratiquent à la base de cette pyramide-là, à la base des soins palliatifs, de l'approche intégrée en soins palliatifs. Donc, concrètement, si je suis, par exemple, une infirmière dans une unité de soins de courte durée, comment je peux appliquer cette approche palliative intégrée-là?
C'est vraiment une bonne question, Stacy. Puis comme Maude le disait, c'est là le grand défi parce que c'est un concept très théorique, l'approche palliative intégrée. Donc, puis c'est pas nouveau. Hein? Ça fait longtemps que justement les données probantes en parlent de l'approche palliative intégrée. C'est juste que c'est pas encore intégré, ça ne fait pas partie des pratiques quotidiennes de la majeure partie des professionnels en soins. Là, ce que nous, Maude et moi, on a commencé à faire dans les derniers mois, comme je disais plus tôt, c'est de vraiment décortiquer l'approche palliative intégrée puis l'intégrer dans une grande trajectoire qui va être déployée éventuellement au CIUSSS de l'Estrichu, qu'on a divisé en trois phases. Donc, on a la phase de l'annonce du diagnostic, la phase de la gestion de maladie, la phase de la gestion de la maladie et des besoins et finalement la phase de fin de vie. Donc, cette trajectoire-là est pratiquement finale. Elle va être déployée, elle va être disponible aussi sur l'intranet. Il va y avoir un accompagnement de chacune des directions là, pour soutenir son une application au quotidien, mais ça va être un petit peu à eux de savoir de quelle façon qu'ils veulent le mettre en place plus concrètement pour que ça fasse du sens pour leurs équipes. Mais effectivement, toutes les professionnels ont le potentiel d'appliquer progressivement, bien entendu, l'approche palliative intégrée dans leur quotidien. Le simple fait d'aborder avec transparence, avec les proches, avec l'usager lui-même, le pronostic de la maladie, les différentes options de traitement, que ce soit du traitement agressif plus curatif jusqu'au traitement de symptômes qui se dit plus traitement palliatif, c'est de faire preuve d'approche palliative intégrée dans son travail. C'est vraiment de laisser le choix à l'usager, à ses proches, de considérer l'ensemble des composantes de notre usager, de sa situation, puis de lui offrir du soutien selon ses besoins, en considérant aussi la contribution les organismes communautaires peuvent offrir à l'usager et aussi nos maisons de soins palliatifs de notre territoire. On a trois maisons de soins palliatifs qui, eux aussi, offrent plusieurs services pour soutenir l'usager. Donc, en plus d'être bénéfique pour la qualité de vie des usagers, l'approche palliative intégrée, ça prend tout son sens considérant le contexte de la rareté de la main-d'œuvre et l'importance de la pertinence des soins. Parce que ce n'est pas tous les usagers qui vont vouloir les mêmes, qui vont avoir les mêmes besoins, qui vont vouloir les mêmes soins. Ça se peut qu'il y ait un usager qui ne veuille pas arrêter nécessairement tous les traitements curatifs en même temps, qui ne soit pas prêt à passer en soins palliatifs complètement. Versus un usager, lui, qui ne veut pas de traitement curatif parce qu'il n'a pas le goût de vivre les effets secondaires négatifs d'un traitement curatif. Donc, c'est vraiment de respecter ce choix-là puis de s'adapter, nous, comme professionnels en soins infirmiers.
C'est vraiment super éloquent, là, comment vous parlez qu'on peut intégrer cette approche-là comme professionnel. Mais j'ai envie d'aller d'un côté peut-être plus personnel. Ben moi, je suis une professionnelle, mais j'ai aussi ma vie personnelle. J'ai mes parents, j'ai mes proches. Peut-être qu'il y a des usagers qui écoutent notre balado aussi. Ben comment on peut, dans notre vie plus personnelle, avec nos proches, intégrer cette approche-là là, dans les discussions? Avez-vous des idées peut-être là, à nous apporter peut-être des éclaircissements à ce sujet-là?
En fait, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut se poser la question, si je recevais un diagnostic d'une maladie à pronostic réservé, qu'est-ce que je voudrais pour moi? Qu'est-ce que je voudrais pour mes proches? Des questions toutes simples. Est-ce que moi, mon objectif de vie, c'est de prolonger ma vie le plus possible? Est-ce que moi, dans la phase de ma vie que je suis actuellement, ben je veux pas aller plus loin, je veux vraiment avoir une belle qualité de vie, d'en profiter le plus possible avec mes petits-enfants, par exemple, sans être malade, faire des voyages. C'est vraiment très personnel, mais c'est d'ouvrir la discussion. Le simple fait d'ouvrir la discussion, d'en parler, de pas avoir peur, ben ça va un petit peu déconstruire cette pensée-là que la mort, là, faut pas en parler, puis que c'est un
tabou. Je trouvais ça intéressant. Ça fait référence à une phrase que tu as dit en début de balado, « en parler ». Ça ne fait pas mourir plus vite. Je trouve que ça résume bien qu'est-ce que tu viens de nous nommer, le monde.
En effet, ben, tu sais, l'API, ça met vraiment de l'avant aussi l'importance de réfléchir à ce que nous souhaitons dans le futur. C'est quoi mes valeurs, comme on le disait? C'est quoi mes principes de vie? L'objectif ultime, c'est de réfléchir à l'avenir pour mieux vivre notre présent. Qu'est-ce que je voudrais, moi, si advenant que je devienne inapte à consentir à mes soins? Est-ce que j'en ai parlé avec mes proches? Est-ce que j'ai utilisé les outils à ma disposition, tels que les directives médicales anticipées, les testaments, les mandats de protection? Bref, comme le dit le premier principe de l'approche palliative intégrée, c'est de prendre connaissance comme individu, mais également comme société, que la mort, c'est une étape normale de la vie. Et comme le disait professeur Diane Gué, qui est une de nos collègues qui participe activement à l'ensemble de nos travaux en soins palliatifs et de fin de vie au CIUSSS, bien, lorsqu'elle écrivait l'article qui présentait l'ensemble des 6 principes, c'est que de parler de la mort ne la retarde pas et ne la précipite pas. Mais parler de la mort change toutefois le rapport que l'on entretient avec les gens et avec le temps.
C'est très inspirant comme phrase, hein?
C'est doux. Moi, c'est ça que j'aimais. J'ai pratiqué aux soins palliatifs dans le très début de ma carrière et je trouvais que c'était doux, les soins palliatifs. Puis c'est ça que je trouve que vous nous avez apporté aujourd'hui, de la douceur.
Bien, en fait, les soins palliatifs, faut pas le voir justement comme une surcharge de travail, une lourdeur, parce qu'on accompagne l'humain, la personne, dans les derniers moments de sa vie. Donc, faut prendre le temps de faire les choses comme il faut, puis d'être là pour eux, de les écouter, d'accompagner. C'est super important.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Pour cet épisode, notre coup de cœur de la DSI va à Mélissa Leblanc, conseillère cadre clinicienne par intérim au sein de la DSI pour la trajectoire hébergement. Celle-ci a initié une collaboration avec professeur Philippe Voyer pour aborder la prise de décisions partagées dans les contextes cliniques où les directives ne sont pas clairement établies. La communauté de pratique sur les soins aux aînés en hébergement a publié un document essentiel intitulé « Soins non balisés et décisions partagées ». Processus et étapes pour un accompagnement adapté aux personnes âgées. Ce document présente 2 cas cliniques illustrant des situations où des décisions cruciales ont dû être prises dans l'intérêt des aînés, malgré l'absence de lignes directrices claires, en exemple concernant le résident porteur d'une sonde urinaire à demeure qui désire pouvoir prendre un bain. Bien que la littérature scientifique ne recommande pas l'immersion dans l'eau pour l'usager porteur d'une sonde, qu'en est-il quand la volonté d'une personne va au-delà de ce risque qui lui est expliqué? Cette publication offre des réponses précieuses et un cadre pour accompagner les professionnels de la santé dans des situations complexes, garantissant ainsi des soins mieux adaptés et respectueux des besoins des personnes âgées.
Soins sécuritaires, déontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, en tant que professionnel en soins infirmiers, d'initier le sujet de l'aide médicale à mourir avec un usager? À titre de professionnel de la santé, vous ne pouvez pas offrir le choix de l'aide médicale à mourir à un patient qui n'en a pas initié la demande lui-même. Selon la loi québécoise sur les soins de fin de vie, c'est le patient qui doit initier une telle demande de manière volontaire et éclairée. L'article 25.1 de la loi concernant les soins de fin de vie indique que l'obtention de l'aide médicale à mourir nécessite qu'au préalable, une demande à cette fin soit formulée. Le consentement libre et éclairé est crucial pour ce type de demande. On dit qu'un consentement est libre lorsqu'il a été formulé en dehors de toute forme d'influence ou de pression. Il est toutefois important de rester attentif aux commentaires tels que « je voudrais arrêter de souffrir » ou « je voudrais en finir » pour comprendre la portée réelle de ces propos, les motivations du patient, par exemple en posant la question « à quoi faites-vous référence exactement ?» Il est important de présenter l'ensemble des options thérapeutiques disponibles en fin de vie. Bien que l'obtention de conscience permette à un médecin ou une IPS de refuser de procéder à l'aide médicale à mourir, il ne donne pas le droit de refuser de transmettre la demande. Il en est de même pour tous les professionnels de la santé. Nul ne peut ignorer une demande d'aide médicale à mourir. L'infirmière peut fournir des informations sur ce soin et les autres options thérapeutiques de fin de vie. Elle peut également apporter de l'aide et du soutien dans le processus, comme de répondre aux questions du patient et de la famille, discuter des critères d'admissibilité ou organiser une rencontre interdisciplinaire. Elle doit tenir compte des limites de ses compétences et, si nécessaire, consulter une autre infirmière ou un autre professionnel de la santé compétent ou diriger l'usager vers l'une de ces personnes. Nous vous invitons à consulter la section Outils cliniques, soins de fin de vie, dans Intranet et à réaliser la formation Principes et pratiques entourant la loi concernant les soins de fin de vie disponible au numéro 16706 sur le
N. Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Agisme. L'agisme est une forme de discrimination basée sur l'âge, touchant souvent les jeunes et les personnes âgées. Dans le milieu du travail, cela peut se manifester par des stéréotypes négatifs ou des préjugés, comme considérer que les jeunes manquent d'expérience ou que les personnes d'un âge plus avancé sont moins capables d'adopter de nouvelles technologies et davantage résistants au changement. Ces stéréotypes peuvent conduire à des décisions de recrutement, de promotion et de formation biaisées, limitant les opportunités de carrière pour ces groupes. Par exemple, une personne dans la vingtaine, diplômée et ambitieuse, pourrait, malgré ses qualifications et sa motivation, être ignorée pour des projets importants au profit de collègues plus âgés, car son supérieur suppose qu'il manque d'expérience. Cela illustre comment l'âgisme peut freiner la progression des jeunes talents en entreprise. Pour lutter contre l'âgisme, il est crucial de promouvoir une culture inclusive dans les milieux de travail, en valorisant les compétences indépendamment de l'âge des personnes. Il est à noter que la diversité d'âge en entreprise enrichit les perspectives et les expériences, renforçant ainsi l'innovation et la productivité. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUSSS de l'Estrichus. Merci.
On a eu droit à un épisode vraiment intéressant qui a ouvert nos horizons sur tout ce qui est l'approche palliative intégrée. Maude Charron, Maude Théberge, un immense merci d'avoir échangé avec nous, d'avoir partagé votre vision qui est très inspirante.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Le prochain épisode portera sur les objectifs de soins et la réanimation cardio-respiratoire, une responsabilité partagée. C'est ce qui met fin à notre épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Je suis Sophie Martin.
Et Stécie Corriveau.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.